Vous êtes sur Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Plus personne met les masques, c'est plus obligatoire, le gel, c'est pareil. On s'est beaucoup relâché sur le corona, quoi.
Relâchement sur les gestes barrières, risque d'une résurgence de l'épidémie. Les médecins sont alarmistes, les experts pessimistes. Faut-il réellement s'inquiéter quand une ville comme Melbourne en Australie reconfine 5 millions d'habitants? Ça n'est pas le moment. Patronat et syndicats sont d'accord pour dire qu'il est prématuré de remettre le dossier des retraites sur la table.
La CFDT a dit que ce n'était clairement pas le sujet de l'été, le sujet de l'automne. Mais clairement, la priorité aujourd'hui, c'est l'emploi.
Notre-Dame de Paris devrait être finalement reconstruite à l'identique. Emmanuel Macron se range derrière l'avis des architectes. Sur pause depuis le confinement, la Ligue 1 de foot fera son grand retour au mois d'août. Le calendrier de la saison prochaine vient d'être dévoilé. On vous dira tout, bien entendu, avec notamment un PSG-OM mi-septembre. Et puis, levez les yeux, il y a du spectacle dans le ciel et c'est gratuit.
Des comètes, il en passe, tous les mois, mais celle-ci, elle est très brillante. Donc, des comètes aussi brillantes que ça, on en voit tous les 5 ou 10 ans, quoi.
Pas très brillante en revanche, la Bourse de Paris, elle a terminé ce soir en nette baisse de 1,21% à 4921 points. Du côté du temps, ça se dégrade demain. Une perturbation traversera le pays accompagnée de petites pluies. Elle était stationnée jusqu'à présent sur le nord-ouest. Elle va s'étendre sur quasiment toute la France. Attention aux orages, en particulier sur le Rhône-Alpes. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis vous aimez lire? Ça tombe bien, nous aussi. Après le journal, on partira à Bordeaux avec Stéphane Place et les bons conseils lecture de la librairie Mola pour cet été.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À partir de samedi, la France ne sera plus en état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas une raison pour relâcher les comportements. Or, nous l'avons tous constaté, de plus en plus de personnes oublient de porter le masque et le lavage des mains est de moins en moins systématique. C'est vrai aussi que nos dirigeants n'ont pas vraiment montré l'exemple ces derniers jours, notamment lors des passations de pouvoir. D'où ce rappel à l'ordre venu des experts du Conseil scientifique. On va y revenir. Mais d'abord, Hélène Terzian, vous avez voulu vérifier ce relâchement. Vous vous êtes promenée sur les quais de Seine à Paris aujourd'hui, et effectivement, le changement est très net.
Effectivement, dans la rue, les masques se font plus rares. Sur les terrasses, les clients s'inquiètent peu, finalement, de boire leur café ou leur bière tout près de la table voisine. Pour Aïcha, c'est surtout dans les boutiques qu'elle ressent un relâchement ces derniers jours.
Plus personne met les masques dans les magasins, partout. Ils nous demandent plus, c'est plus obligatoire. Le gel, c'est pareil, c'est à disposition, mais ils ne nous forcent pas à le mettre. Dans les magasins, on peut rentrer à plusieurs, c'est plus un certain nombre. Je trouve qu'on s'est beaucoup relâché sur le corona, quoi.
Pour d'autres, c'est dans les transports que le relâchement dans le respect des gestes barrières est flagrant, avec la règle d'un siège sur deux moins respectée qu'avant. Même constat au sein de nombreuses entreprises, et ce, malgré des règles très strictes, raconte Aurélien.
Alors on a le port du masque obligatoire, mais ça c'est quand même vachement détendu. Pour le coup, dans les bureaux et salles de réunion, à partir du moment où les gens ont passé 2-3 heures ensemble, ce temps fait qu'ils se sentent plus proches et ils vont retirer leur masque. Donc oui, dans le couloir on met son masque, à la machine à café on met son masque, mais en salle de réunion beaucoup moins.
Une soignante que j'ai croisée tout à l'heure déplore cette situation. Elle me confiait que l'exemple devait venir d'en haut, à l'Assemblée nationale. Les députés ne portent pas bien leur masque, m'a-t-elle dit. Quant aux membres du gouvernement, ils devraient tous en porter un dans chacune de leurs visites officielles.
Le reportage d'Hélène Terzian dans les rues de Paris, est-ce qui est valable dans la capitale, l'est aussi bien sûr dans le reste du pays. D'où l'inquiétude depuis quelques jours de médecins et d'experts qui tiennent des discours de nouveau alarmistes et qui évoquent le risque d'une deuxième vague. Virginie Salmen, il y a des raisons concrètes qui justifient une telle alerte?
Alors, on est à 500 nouvelles contaminations par jour et c'est suffisant pour faire repartir une épidémie, prévient le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfoissy. 100 nouveaux patients qui entrent à l'hôpital chaque jour pour un cas de Covid. Ça n'empêche qu'on est dans un scénario de maîtrise de l'épidémie avec des foyers encore localisés, circonscrits. Mais c'est justement parce que, jusque-là, on portait des masques, on faisait attention à se laver les mains, que la circulation du virus restait maîtrisée. Il suffit de peu de choses pour que ça reparte. Ces jours-ci, les scientifiques observent de plus en plus de jeunes qui contractent le virus. Et pour eux, l'explication, c'est qu'il faut moins d'attention que les personnes âgées, pour qu'il y ait un vrai enjeu de survie. Même explication, le relâchement en Mayenne. Le nombre de cas a doublé en 2 semaines à 2 reprises, notamment à Laval et à l'Huisserie, avec 219 cas positifs recensés cette semaine. Résultat, une campagne de dépistage massive est lancée pour 300 000 personnes du secteur. D'ailleurs, seulement la moitié des gens qui ont des symptômes se font tester. Pourtant, aujourd'hui, on est en surcapacité de tests.
Virginie, ça veut dire que c'est sûr, on n'échappera pas à une deuxième vague?
Oui, clairement, pour les scientifiques, la question n'est pas de savoir s'il y aura une deuxième vague, mais plutôt quand et de quelle intensité. On n'est qu'à 12 ou 15% de taux d'immunisation au mieux selon les régions. Il y a des endroits où on est bien plus bas. Ça ne suffit pas. Le virus a encore beaucoup de personnes potentielles à contaminer, donc il va revenir. Logiquement, ça devrait être autour d'octobre-novembre, mais si on se relâche trop, l'épidémie peut reprendre dès cet été, selon le Conseil scientifique.
Les prévisions pas très optimistes, hein, signé Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. L'Espagne, qui vient de reconfiner 300 000 personnes dans deux régions, annonce que le port du masque est désormais obligatoire dès que l'on sort de son domicile en Catalogne. Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, est-elle reconfinée depuis aujourd'hui ? Pour 6 semaines, interdiction de sortir pour les 5 millions d'habitants, sauf pour aller travailler ou pour les achats essentiels. Écoutez ce témoignage à méditer ce soir au vu de ce qu'il se passe chez nous en France, celui d'Alex qui vit en Australie depuis 10 ans.
Il y a eu beaucoup de panique, il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de fuir Melbourne au plus vite possible, où les gens ont essayé d'aller soit à la campagne, soit dans un autre état qui était moins confiné. Tu te sens un peu isolé du restant du pays. Quand je regarde par exemple sur Facebook et je vois les gens qui commencent à ressortir, ça m'affecte encore plus. Nous, on se retrouve à pouvoir rien faire alors que les autres profitent vraiment de leur liberté. On sait un peu, évidemment, comment ça se passe, le confinement, donc on sait à quoi s'attendre, à quel point c'est monotone, à quel point tu finis par tourner un peu en rond. La première fois du confinement, on se disait, bon, c'est pas super, mais au moins on fait ça, et après on peut retrouver un peu de liberté. Mais là, on n'a aucun repère pour le retour à la norme. Tout le monde vit ça plus difficilement que la première fois. Ça nous montre vraiment à quel point, pour nous, c'est pas fini. C'est ça qui démoralise un peu les gens.
Alex, une Française qui vit en Australie, jointe pour Europe 1 par Sarah Calamand. En France, les soignants seront bien mis à l'honneur le 14 juillet. Les soignants, mais aussi des représentants des métiers en première ligne pendant le confinement. Caissiers, enseignants, forces de l'ordre, pompiers, agents funéraires. 1400 invités issus de la société civile seront conviés en tribune pour la cérémonie, place de la Concorde. Pas de troupes au sol cette année, mais il y aura bien un défilé aérien. Notez que l'Assemblée nationale a adopté ce soir un troisième budget d'urgence face à la crise du coronavirus, avec un débat sur les contreparties écologiques aux aides publiques octroyées aux entreprises. Ce troisième projet de loi de finances rectificative prévoit environ 45 milliards d'euros supplémentaires pour secourir le tourisme, l'automobile ou l'aéronautique, adopté en première lecture avec les voix de la majorité et celle de LR. Il doit maintenant être examiné par le Sénat.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h07, c'est la suite de votre journal sur Europe 1 et ce sera la première épreuve de force contre le nouveau gouvernement. La CGT appelle à la grève le 17 septembre. Toujours rien de concret pour l'emploi et pour les salaires. Il faut passer de la parole aux actes, explique le syndicat. Syndicat et patronat qui se sont succédés depuis ce matin à Matignon et une fois n'est pas coutume, tous sont d'accord. Pas question de remettre sur le tapis la réforme des retraites. En tout cas pas tout de suite, car la priorité pour l'instant c'est de relancer l'économie et d'éviter les licenciements pour les retraites. Bien, on verra plus tard. Ce n'est pas le moment, estime le leader de la CFDT, Laurent Berger, pourtant favorable au système à points.
La CFDT a dit que ce n'était clairement pas le sujet de l'été, le sujet de l'automne. Vous le savez, la CFDT est attachée à un système universel des retraites, mais clairement la priorité aujourd'hui, c'est l'emploi. Donc on a dit très clairement au Premier ministre que la question des retraites ne devait pas venir polluer la question de la relance économique et sociale et la question de la préservation et du développement de l'emploi.
Laurent Berger de la CFDT à sa sortie de Matignon, et c'est suffisamment inhabituel pour être souligné, les syndicats et le patronat sont sur la même longueur d'onde. Mieux vaut repousser ce débat à plus tard. Écoutez Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Je ne crois pas qu'il soit sage, utile et prioritaire d'en discuter cet été. Entre parler financement des retraites à l'automne et en parler le 17 juillet, il y a quand même plusieurs mois. Or, la priorité, c'est de consolider ce début de reprise. Et c'est ça qui permettra de discuter sereinement d'abord du financement des retraites et puis éventuellement, en 2021, du système universel sur lequel nous, on a des réserves, mais sur lequel on est prêt à discuter plus sereinement que dans les jours et les semaines qui viennent.
Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, propos recueillis par Aurélien Fleureau. Notez que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, sera demain à 8h15 l'invitée d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Les négociations du Ségur de la Santé entre syndicats et gouvernement se sont-elles achevées la nuit dernière? Et un projet d'accord a été trouvé, vous le savez. Le gouvernement propose aux syndicats une hausse à terme de 180 euros par mois pour les métiers paramédicaux et médicaux. Les syndicats ont maintenant jusqu'à lundi pour officialiser leur accord ou bien leur opposition. La Légion d'honneur, à titre posthume pour Mélanie Lemay, cette jeune femme gendarme tuée samedi à Agen par un chauffard. Une cérémonie d'hommage était organisée ce matin en présence du ministre de l'Intérieur.
Gendarmes, vous comptez dans vos rangs des blessés nombreux, des morts trop souvent. La nation connaît votre sacrifice. Vous avez choisi un métier utile, indispensable au pays. indispensable à la population. Dans ces terribles circonstances qui nous rassemblent aujourd'hui, la République veut vous dire que votre engagement n'est pas vain et qu'il ne le sera jamais. Au contraire, vous êtes l'honneur de la République. Vous êtes, vous, les forces de l'ordre, ceux qui nous protégez.
Gérald Darmanin, ce matin à Agen, lors de la cérémonie d'hommage à Mélanie Lemay. Le chauffard qui l'a tué a été mis en examen pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher sera filmé. C'est une première pour un procès terroriste. La captation d'images est en principe interdite, sauf si elle présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques. Le djihadiste français Tyler Villus sera de nouveau jugé. Il a été condamné à 30 ans de prison pour des crimes commis en Syrie entre 2013 et 2015. Mais le parquet antiterroriste qui réclamait la perpétuité a décidé de faire appel. Quel visage pour Notre-Dame de Paris après sa reconstruction? On se souvient que les projets les plus fous ont circulé pour remplacer la flèche, notamment effondrée au moment de l'incendie. Et bien finalement, c'est un projet bien plus classique ainsi, qui semble se dessiner, celui d'une reconstruction à l'identique. En effet, Emmanuel Macron se dit ce soir convaincu qu'il faut restaurer la cathédrale et sa flèche. À l'identique donc, lui qui avait pourtant évoqué juste après l'incendie une restauration plus contemporaine. Il se range donc finalement derrière l'avis des architectes et de l'opinion publique. Satisfaction pour Pascal Jacob, le président de l'association Restaurons Notre-Dame.
Cette flèche telle qu'elle était à l'origine permet de respecter l'homogénéité de l'ensemble de la toiture de la cathédrale, de respecter sa beauté également. Et si on conserve les matériaux d'origine, en l'espèce le bois, c'est effectivement une très bonne chose puisque le bois est le matériau le plus durable. Donc tout cela est un choix cohérent qui respecte le mieux le patrimoine historique mondial.
Pascal Jacob, le président de l'association Restaurant Notre-Dame, au micro européen de Romain Noquet. Notez que Mgr Patrick Chauvet, le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sera l'invité du journal de 8h demain matin sur Europe 1. Amis sportifs, à vos agendas. Ça y est, on a le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1. Top départ, ce sera le 22 août avec de grosses affiches dès le début de saison, Simon Rubin, et notamment un classico PSG-OM qui va arriver très vite.
Oui, alors dès la troisième journée, le 13 septembre, Paris recevra Marseille. Pour le coup, les Marseillais ne sont pas vernis puisqu'ils vont enchaîner les gros matchs. Première journée contre Saint-Etienne, le PSG, donc on vient de le dire. Et puis ensuite, Lille et Lyon, quatre adversaires directs pour le podium dès les six premières journées. Alors le PSG, tenant du titre, aura lui un début plus tranquille contre Metz le 23 août, même si le match pourrait être décalé si les Parisiens jouent la finale de la Ligue des Champions qui est programmée à la même date. Le PSG qui se déplacera à Lens le 30 août pour l'un des temps forts de la saison. Ce sera le retour à domicile en Ligue 1 des 100 et or qui auront droit donc à ce qui se fait de mieux du côté des supporters lensois. On est d'ailleurs écœuré à l'idée de ne pas pouvoir aller au stade si jamais le nombre de spectateurs est toujours limité à 5000. Alors quelques autres belles affiches dans la première moitié de saison. Lyon-Saint-Etienne, ce sera le 8 novembre. PSG-Lyon le 13 décembre. Et puis notez qu'on aura des matchs pendant les fêtes de Noël, le mercredi 23 décembre. Ce sera une sorte de Boxing Day à la française.
Les précisions de Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Une confirmation ce soir, la fin de la Ligue des Champions à Lisbonne se jouera bien à huis clos, alors que la capitale portugaise fait face, vous le savez, à une recrudescence de cas de coronavirus. En cyclisme, Chris Froome change d'équipe après 10 années chez Sky, devenu Ineos en 2019. Le quadruple vainqueur du Tour quittera en fin de saison l'équipe britannique pour rejoindre l'an prochain l'équipe Israel Startup Nation. Non content d'avoir envoyé des astronautes dans l'espace, Elon Musk se fixe un nouveau défi, celui de mettre au point une voiture 100% autonome d'ici la fin de l'année. Il lui reste donc moins de 6 mois, 100% autonome, c'est-à-dire sans conducteur et qui peut circuler sur n'importe quelle route. Et puis c'est un spectacle exceptionnel et rarissime. On sait que l'été, les étoiles sont particulièrement visibles, mais là c'est une comète qu'il est possible d'observer quasiment tout le mois de juillet. Les spécialistes vantent sa beauté, beauté qu'il faut toutefois mériter, Pierre Herbulot.
Oui, 4h30 du matin, de quoi doucher tous vos rêves de conquête spatiale. Mais je vous rassure, à partir de la semaine prochaine, le 14 juillet précisément, elle sera visible beaucoup plus tôt ou plus tard, c'est selon, entre minuit et 1h. Alors à quoi ça ressemble une comète? À une grosse étoile rouge-orangée avec une longue traîne de fumée derrière. Et celle-ci est particulièrement belle. L'astrophysicien Nicolas Biver peut l'affirmer. Ça fait 4 jours qu'il se lève à l'aube pour l'admirer.
Les comètes, il en passe, je dirais, tous les mois, mais la plupart sont toutes petites ou loin du Soleil ou n'émettent pas beaucoup de gaz et de poussière. Et celle-ci, elle est passée très près du Soleil, Probablement que le noyau est relativement gros et elle émet une très grande quantité de gaz et de poussière, c'est ça qui la rend très brillante. Donc des comètes aussi brillantes que ça, on en voit tous les 5 ou 10 ans. Une comète vraiment plus belle que celle-là, sinon il faut remonter probablement la grande comète Albop en 1997, donc il y a plus de 20 ans.
Le mieux pour l'observer en ce moment, le matin, c'est un horizon dégagé nord-est. La semaine prochaine, de nuit, un horizon dégagé nord-ouest avec une paire de jumelles de préférence et hors des villes si possible pour éviter la pollution lumineuse. Si vous ratez votre chance, vous pourrez toujours tenter le coup à son prochain passage dans 6 ou 7 000 ans.
Effectivement, vaut mieux pas rater ça. Hein. Alors, les nuages vont-ils cacher la fameuse comète ? On jette un œil tout de suite sur la météo.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h17. Merci à vous d'écouter Europe 1. Vous savez que les librairies indépendantes, comme nombre de petits commerçants, ont beaucoup souffert des conséquences économiques du confinement. Raison de plus pour les mettre en avant cet été sur Europe 1. Elles et leurs bons conseils pour choisir les livres qui vont vous accompagner pendant vos vacances. Pour la troisième année consécutive, nous avons donc décidé de nous associer avec la première librairie indépendante de France, la librairie Mola à Bordeaux. Avec Stéphane Place, nous vous proposons chaque jour un coup de cœur pour un polar, un roman, un essai, une BD. Et aujourd'hui, on vous emmène dans un univers digne d'un film ou d'une série sur les redoutables gangs latino-américains. Sauf que là, eh bien, il ne s'agit pas d'une fiction.
El Niño de Hollywood, c'est à la fois un document, une enquête historique et un thriller. Un reportage qui se lit en tout cas comme un véritable polar. La vie de Miguel Angel Tobar n'a rien d'une fiction. Ce tueur a bien appartenu à un gang tristement célèbre, la MS-13. Et à travers ce personnage, nous voici plongés dans l'Amérique des années 80, dans les pas de ce Salvadorien qui n'hésite pas à finir ses victimes à coups de machette. C'est le témoignage de cet assassin professionnel recueilli par les auteurs qui constitue la clé de ce récit que vous recommande Pierre Coutel, libraire chez Mola.
Ce livre tourne autour d'un personnage, donc El Niño de Hollywood, qui a été un tueur pour un gang, la fameuse MS-13. Et ils prennent les confessions de cet homme après qu'il ait cessé ses activités et au moment où il sait que malgré tout, normalement, le réel va le rattraper et quelqu'un va venir un jour toquer à sa porte de sa ferme pour lui redemander des comptes. Et surtout, on a le récit de la construction de ce gang absolument incroyable qui, dans les années 80, va quitter le Salvador pour aller s'installer dans la banlieue de Los Angeles. Donc c'est pour ça El Niño de Hollywood. Et devenir effectivement l'un des gangs les plus forts de l'Amérique des années 80, de l'Amérique réganienne, complètement dérégulée. Alors il y a une dimension, on va dire, politique et sociale. Pourquoi est-ce que des immigrés se retrouvent à devenir membres de gangs ? Pourquoi ce gang-là prend une telle force justement dans le Los Angeles des années 80 ? Pourquoi elle importe en retour la violence dans leur pays d'origine quand ils reviennent avec l'effet de la base arrière ? Pourquoi évidemment c'est aussi le moment où le trafic de drogue entre l'Amérique centrale et les États-Unis prennent une place si forte ? Et pourquoi tout ceci intervient dans un monde qui est complètement dérégulé.
Ce sont deux frères, deux Salvadoriens, qui signent ce document incroyable. Oscar Martinez est un journaliste d'investigation. Juan José Martinez est un anthropologue. Ce qui explique sans doute la portée exceptionnelle de ce livre qui a impressionné l'éditrice française Anne-Marie Métellier.
Jamais je n'aurais pu saisir la problématique politique qui est en jeu si je n'avais pas eu ce personnage qu'ils ont écouté parce que, à travers son récit, il nous montre comment fonctionne tout un système de violence. Il nous explique ce qu'a été l'histoire du Salvador après la guerre civile. C'est grâce à cette histoire de cet homme que l'on peut appréhender le cadre plus global de ce pays.
Les frères Martinez se sont vus décerner le prix du réel 2020 pour El Niño de Hollywood, au cœur d'une époque et de la relation de ces gangs d'Amérique centrale avec les États-Unis.
La chronique de Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux, c'est à retrouver tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous donc pour une autre découverte demain, même heure. Autre nouveau rendez-vous cet été sur Europe 1, ça s'appelle La Bonne Idée. Et avec vous, tous les soirs, Thierry Dagiral, nous tirons un coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après cette crise, se mobilisent et qui innovent.
Bonsoir Nesma Atem, vous êtes coordinatrice des opérations Paris en compagnie. Vous venez aider nos seniors, ceux qui vivent seuls à Paris, qui sont en perte d'autonomie. Comment vous faites, sous quelle forme, comment ça se passe ?
Alors, Paris en compagnie propose aux personnes âgées isolées d'être accompagnées dans leurs déplacements de proximité. Donc il peut s'agir de petites sorties de loisirs, d'accompagnement à leurs rendez-vous médicaux ou encore à leurs rendez-vous administratifs.
Oui.
Et pendant le confinement, nous avons mis en place des appels de convivialité afin que nos bénévoles puissent passer des petits coups de fil à nos aînés isolés, prendre de leurs nouvelles et s'assurer qu'ils n'avaient besoin de rien.
Comment ça se passe ? Est-ce que les seniors doivent s'inscrire eux-mêmes, leur famille ? Comment on peut procéder ?
Alors, les deux sont possibles. Les aînés peuvent nous contacter directement à notre numéro ou leurs proches peuvent également nous contacter afin d'inscrire leurs parents s'ils le souhaitent.
Nesma Hatem, il y a un dispositif particulier, j'imagine, cet été ?
Alors, nous continuons à faire des appels de convivialité, notamment en prévision des journées de forte chaleur pour les aînés qui ne pourraient pas se déplacer. On maintient le lien social grâce à ces petits coups de fil qui sont passés chaque jour à nos aînés.
C'est une application, donc on peut la retrouver. Paris en compagnie, c'est bien cela ?
Tout à fait. Vous pouvez télécharger l'application et avoir accès à toutes les demandes des personnes âgées.
Et il y a un numéro de téléphone aussi. Notez-le, 01 85 74 75 76, c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça.
01 85 74 75 76. Merci et bravo à vous, Nesma Hatem. Merci.
Et la bonne idée, c'est tous les soirs sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Comme avant, titre le journal La Croix, Emmanuel Macron a entériné l'option d'une restauration de Notre-Dame de Paris au plus proche de l'état dans lequel elle se trouvait avant l'incendie, y compris la flèche. Notre-Dame, la flèche sera ressuscitée pour le Figaro, une décision saluée par de nombreux architectes. On n'y verra que du feu, titre pour sa part Libération, qui confirme également que la cathédrale sera restaurée à l'identique avec la flèche de Viollet-le-Duc. Emmanuel Macron a changé d'avis, on vous le disait tout à l'heure dans le journal, lui qui avait envisagé initialement une restauration un peu plus contemporaine. Le droit aux vacances à l'ombre du Covid, c'est le titre de l'Humanité. Ou comment concilier congés payés et sécurité sanitaire, avec en une la photo de jeunes gens en train de jouer au beach volley avec un masque sur le visage. Retraite, Macron relance la réforme seul contre tous, titre Le Figaro. Le chef de l'État qui souhaite pouvoir l'inscrire à son bilan veut poursuivre la réforme des retraites et on en parlait aussi dans le journal tout à l'heure. Le Premier ministre a reçu ce jeudi les syndicats, mais du MEDEF à la CGT, tous lui ont opposé un refus unanime. Relocalisation, ce que la France peut faire, titre Les Échos. La pandémie a mis la lumière sur les risques logistiques de la mondialisation. Et puis au secours, le plan revient, titre le journal L'Opinion. Emmanuel Macron pourrait annoncer le 14 juillet, mardi prochain donc, la création d'un haut commissariat au plan avec François Bayrou à sa tête, selon le Canard enchaîné. Le Premier ministre Jean Castex n'a pas démenti et le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a jugé aujourd'hui cette idée très utile. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques.